Bien, camarades, nous allons bientôt reprendre l'exposé. Si vous pouviez regagner vos places. Bien, je redonne donc la parole à Isabelle Bonnet pour la suite de notre exposé.
C'est à l'école primaire, voire à la maternelle, que la carence de l'État a les conséquences les plus graves. Dès l'école maternelle, dès l'âge de 2 ou 3 ans, l'école publique devrait prendre en main les enfants des milieux populaires les plus pauvres. C'est à cet âge-là qu'on s'initie à la langue et au comportement collectif. Alain Bentolila, linguiste et conseiller pédagogique, explique que pour acquérir la langue écrite, un enfant doit maîtriser la langue orale. Tout petit, il doit posséder un minimum de vocabulaire lorsqu'il commence à déchiffrer les mots. Sinon, il a toutes les difficultés avec la lecture et l'écriture. Mais comment un enfant, dont le français n'est pas la langue maternelle, pourrait-il apprendre à le parler correctement dans une classe où s'entassent des dizaines d'enfants et où on utilise plusieurs langues différentes ? Pour ne citer qu'un exemple, dans certaines classes des écoles maternelles de Marseille, il peut y avoir plus de 30 enfants. Et si la plupart sont de nationalité française, leurs parents sont originaires d'Afrique noire, du Maghreb, d'Asie ou d'Europe centrale. Cette diversité devrait être une richesse, car lorsqu'un enfant maîtrise une langue, il peut facilement en apprendre d'autres. Mais il faut d'abord qu'il puisse réellement apprendre la langue dans laquelle il va écrire et poursuivre sa scolarité. Sinon, il va échouer et se décourager. Et même un enfant de langue maternelle française, avec qui va-t-il acquérir un vocabulaire varié, riche, dans une société où la plupart des femmes travaillent, où les grands-parents ne vivent plus dans le même foyer? C'est bien à l'enseignement public d'assurer ce rôle, et on en est loin. Selon le même linguiste, auteur d'un rapport ministériel sur l'école maternelle et dont les conseils sont suivis avec l'efficacité que l'on voit, il faudrait un instituteur pour 8 enfants maximum dès la petite enfance. On est loin du compte. On est loin du compte et pour bon nombre d'enfants, l'école maternelle se réduit à du gardiennage. La déclaration du ministre Darcos sur les instituteurs de maternelle qui n'auraient pas besoin d'avoir Bac+5 pour changer des couches et surveiller des siestes est méprisante à plus d'un titre. Tout d'abord, le ministre semble si peu intéressé par ce qu'il s'y passe qu'il ignore que pour être admis à la maternelle, un enfant doit être propre et que changer une couche est occasionnel. Mais surtout, il se moque du rôle essentiel que joue l'école maternelle dans l'apprentissage de la langue. D'ailleurs, il veut les supprimer et les remplacer par des jardins d'éveil qui seront payants pour les familles. Dès la rentrée prochaine, il n'y aura plus d'enfants de 2 ans en maternelle et l'accueil des 3 ans est en ligne de mire. Les familles les plus pauvres garderont leurs enfants elles-mêmes alors que ce sont justement ces enfants qui gagnent le plus à être scolarisés le plus tôt. Il faudrait au contraire... Il faudrait au contraire embaucher massivement pour l'école maternelle et le primaire. Au lieu d'imposer des heures de soutien scolaire à tous, il faut au minimum maintenir le nombre de postes dans les RASED, les réseaux d'aide spécialisés aux enfants en difficulté, alors que le gouvernement projette d'en supprimer des milliers. À l'école primaire, dans des classes surchargées, que peut-on transmettre à des enfants déjà en difficulté ? Certainement pas la maîtrise de la langue écrite et du calcul, encore moins des règles de vie en société, alors que c'est l'école primaire qui doit enseigner tout cela. Lorsqu'un gamin ne sait pas parler à 2 ou 3 ans, cela inquiète à juste titre. Alors il faut aussi s'inquiéter de ce que des enfants ne sachent pas lire et écrire à 6 ans ou 7, car c'est un retard qui ne se rattrape pas, pire, qui va s'aggraver et handicaper ces enfants dans toute leur scolarité. Aujourd'hui, presque 10% des enfants entrent en 6e sont illettrés. L'école de Jules Ferry n'en fabriquait pas autant, et c'était il y a plus d'un siècle. Pour beaucoup, le parcours au collège sera synonyme d'échecs successifs. Et pour une minorité d'entre eux, ils retourneront leur frustration et leur colère contre l'école. La montée des incivilités, comme on dit, les actes de violence à l'école trouvent aussi leur origine dans cette déficience de l'école publique, incapable d'éduquer ces jeunes, c'est-à-dire incapable de leur apprendre à chaque étape les connaissances pour progresser, mais aussi incapable de les socialiser. Devant l'échec de nombreux collégiens à acquérir ces connaissances, l'idée revient dans la presse, dans la bouche d'hommes politiques ou même d'enseignants, qu'il faut remettre en cause le collège unique. Certains affirment qu'un collège où tous les jeunes reçoivent la même éducation est une belle utopie, qu'il est inadapté pour accueillir des élèves trop différents. D'autres pensent que tous les jeunes de 14 ans ne peuvent pas avoir accès aux mêmes connaissances, à la même culture. Mais c'est un faux problème qui véhicule une idée réactionnaire. Est-ce que cela veut dire qu'il faut revenir à une orientation plus précoce qui éjecterait ces jeunes encore plus tôt du système éducatif ? C'est la volonté des derniers gouvernements qui défendent le retour à l'apprentissage. Ou bien s'agit-il d'adapter le collège aux élèves en difficulté en ne leur fournissant plus qu'une culture réduite pour être accessible ? Dans les deux cas, c'est considérer que la culture n'est pas pour tout le monde et en exclure ceux qui subissent déjà l'exclusion sociale. Rien n'est fait pour donner aux jeunes qui en ont besoin le goût de l'instruction, de la culture. Et ce n'est sûrement pas en supprimant des moyens humains, en supprimant des milliers de postes d'enseignants qu'on peut le leur donner. Au contraire, sans les enseignants, rien n'est possible. Aucun ordinateur ne peut y suppléer. Il ne s'agit même pas de moyens extraordinaires pour embaucher le personnel suffisant, enseignants et non-enseignants, encore moins pour construire les locaux nécessaires. Il faudrait surtout que l'État en ait la volonté politique et qu'ils choisissent de donner à des services publics essentiels comme l'éducation nationale une partie seulement de ce qu'ils distribuent sans compter aux banquiers et aux patrons. Tous les gouvernements successifs ont affirmé que le budget de l'éducation nationale n'a pas cessé d'augmenter pendant des années sans résoudre aucun problème et qu'il ne faut pas faire plus, mais mieux. En fait, les moyens n'ont jamais suivi l'accroissement de la jeunesse scolarisée, qui est deux fois plus nombreuse qu'il y a 50 ans. Et même, lorsque le gouvernement prétexte une légère baisse démographique, il ne veut pas voir que la population d'élèves a changé, qu'elle est bien plus hétérogène et qu'il faudrait au contraire des moyens plus importants. Il préfère sacrifier une partie de la jeunesse, en particulier la plus pauvre, celle qui aurait besoin de plus d'attention. Darcos ajoute avec mépris « Si on faisait un montage des manifestations des années 70 à nos jours, on y trouverait toujours les mêmes slogans. Il peut avoir tous les diplômes, sa myopie sociale l'empêche de voir que l'éducation ne fait que régresser. » Ou alors il fait peut-être son autocritique et celle de ceux qui l'ont précédé. Parce que si les profs répètent la même chose, c'est surtout parce que rien ne change. Ou alors, en pire. Même la politique des ZEP, ces zones d'éducation prioritaire créées en 1981, a peu changé la donne. Le saupoudrage de moyens était trop insuffisant. Et le slogan « Donner plus à ceux qui ont le moins » n'a pas empêché la formation de ghettos scolaires dans ces quartiers qui concentrent déjà les jeunes désœuvrés et les chômeurs. À ces jeunes, sans travail, sans logement, et pour beaucoup, issus de l'immigration, qui subissent en plus du racisme social, le racisme tout court, le gouvernement n'a à offrir que du mépris, aucun autre avenir qu'un énième plan banlieue, aussi inefficace que les précédents. Et à leurs parents, que les patrons ont recrutés il y a quelques décennies pour les exploiter à la construction des routes et des bâtiments ou sur les chaînes de montage des usines automobiles, l'État ose faire la morale alors que c'est lui qui abandonne ses quartiers quand il ne menace pas de supprimer les allocations familiales, ce qui ne peut qu'enfoncer ses familles un peu plus dans la misère. On nous parle de mixité sociale, mais la mixité sociale, sans la mixité des logements, c'est une illusion. La carte scolaire, qui d'après ses défenseurs contribuait à cette mixité et qui est maintenant supprimée, ne servait en fait pas à grand-chose, d'autant que beaucoup de ceux qui le pouvaient la contournaient. Mais même lorsqu'elle fonctionnait, le fonctionnement même de la carte scolaire faisait qu'un élève d'un quartier bourgeois de Paris était scolarisé dans un bon établissement de son beau quartier, tandis que celui qui vivait dans une cité laissée pour compte de banlieue se retrouvait dans le seul collège ZEP qui existait. Dans une société basée sur l'inégalité sociale, la mixité sociale ne peut pas plus exister que l'égalité des chances. Les inégalités entre quartiers, entre communes, voire entre régions, se sont aggravées avec la décentralisation. L'État s'est déchargé sur les communes, sur les départements, pardon, et les régions comme sur les communes d'un certain nombre de tâches, mais sans leur donner les moyens de les remplir. Plus une commune est riche, plus elle consacre d'argent à l'éducation. Et les élèves des communes les plus pauvres se retrouvent doublement pénalisés, puisqu'aux difficultés sociales s'ajoute un environnement scolaire plus dégradé. Au lieu d'être compensé, au moins un peu par l'État, les inégalités se creusent encore. La logique de marché, que le gouvernement voudrait bien imposer à l'éducation, joue aussi un rôle dans le renforcement des inégalités. En prétendant améliorer le rendement de la machine éducative, c'est les mots de Darcos, il ne fait que pousser les établissements à entrer en compétition pour attirer les meilleurs élèves, seule garantie d'une meilleure performance. C'est à celui qui affichera le meilleur palmarès de réussite au bac ou qui multipliera les sections les plus prestigieuses pour attirer les bons élèves, comme on attire le chaland. Même les collèges de quartiers populaires s'y mettent pour proposer qui l'option européenne à la mode, qui la classe à horaires aménagés pour le sport, afin d'éviter la fuite des élèves les moins pauvres du quartier tentés de s'inscrire ailleurs. Quelques lycées d'excellence à un pôle, une grande majorité d'établissements au bord de l'asphyxie de l'autre, voilà ce que prépare l'évolution actuelle du système éducatif. Au vu de tout cela, on peut dire que dans le domaine de l'éducation, comme dans bien d'autres, les choses évoluent vraiment dans la mauvaise direction depuis des années. Et les économies faites sur son dos ne peuvent qu'accélérer la faillite du système éducatif. Voilà la situation dans un pays qui a un des meilleurs systèmes éducatifs du monde, comme dirait Sarkozy. La situation est-elle différente dans les autres pays impérialistes ? Sans parler de tous, quelques mots sur le plus puissant d'entre eux, les États-Unis. En matière d'éducation, les États-Unis, parce qu'ils sont la première puissance mondiale, sont aussi le pays qui montre le mieux à la fois les possibilités et les limites de l'éducation dans le cadre capitaliste de la société. Quel contraste entre, d'un côté, les plus grandes universités du monde, où l'on travaille sur des sujets scientifiques qui nécessitent les connaissances les plus pointues avec les moyens les plus modernes, et de l'autre, la remise en cause de l'enseignement de la théorie de l'évolution dans les écoles publiques. Dans le pays capitaliste le plus avancé, les prix Nobel peuvent côtoyer un musée de la création, ouvert il y a un an et demi, et qui montre l'histoire du monde selon le récit de la Genèse, présenté comme littéralement exact. Ainsi, la Terre n'aurait pas plus de 6000 ans, les hommes auraient jadis fréquenté les dinosaures, le déluge serait une réalité historique dont témoigne notamment l'existence du Grand Canyon, etc. Des idées d'un autre âge, certes, mais diffusées avec des moyens modernes, avec planétarium, reconstitution multimédia, comme celle qui présente les animaux cramponnés à l'arche de Noé. Au-delà de l'anecdote, les fondamentalistes religieux cherchent depuis longtemps à imposer l'enseignement de la création dans les écoles publiques. Au cours d'un procès retentissant qui eut lieu en 1925 dans le Tennessee, un enseignant fut jugé pour avoir enfreint la loi qui interdisait l'enseignement de la théorie de l'évolution dans les écoles de l'État. On lui reprochait d'enseigner, je cite, « une théorie qui nie l'histoire de la création divine de l'homme, telle qu'elle est enseignée dans la Bible, et d'enseigner à la place que l'homme descend d'un ordre animal inférieur. » La presse baptisa ce procès le procès du singe. L'enseignant fut condamné, non pas sur le fond, comme partisan de la théorie de l'évolution, mais pour n'avoir pas respecté la loi, loi qui sera maintenue dans 4 autres États du Sud, jusque dans les années 60, en même temps que la lecture obligatoire de 10 versets de la Bible par jour. Depuis, les créationnistes ont tenté d'imposer le traitement équilibré, comme ils disent, c'est-à-dire l'enseignement de la création au même titre que la théorie de l'évolution. Déboutés en 1982 de leurs prétentions par des tribunaux qui ont jugé que la soi-disant théorie de la création n'était pas scientifique, ce qui est quand même la moindre des choses, les créationnistes reviennent aujourd'hui à la charge sous le couvert de la théorie du dessein intelligent. Cette théorie ne conteste pas l'évolution, mais elle défend l'idée qu'un monde si complexe n'aurait pas pu exister sans l'intervention d'une intelligence supérieure. Et revoilà, à peine déguisée, la création divine. De la même façon que chaque État décide des programmes scolaires, il finance ses propres écoles, essentiellement avec le revenu des taxes locales. Ainsi, les districts riches peuvent disposer de quelques bonnes écoles, tandis que celles des ghettos pauvres sont en ruine. De plus, l'école publique a pâti de la baisse d'impôts général décidée en particulier par le gouvernement Bush, entraînant une dégradation de l'enseignement public que fuient tous ceux qui peuvent payer une école privée. Le résultat, c'est qu'un quart des lycéens et près de la moitié des lycéens noirs ont de telles difficultés pour lire lorsqu'ils terminent leur scolarité que certaines universités publiques font des cours d'apprentissage de la lecture pour leurs étudiants. Une autre éducation a été possible dans un pays qui expérimentait une société différente du capitalisme. Il s'agit de la Russie révolutionnaire. Bien sûr, ce n'est pas un modèle de ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, on n'est plus au début du XXe siècle, mais cela donne néanmoins une idée de ce qu'il est possible de faire lorsqu'il y a la volonté politique et la conscience que l'éducation des hommes, c'est l'avenir de la société. En Russie, les ouvriers, les soldats et les paysans prirent le pouvoir en 1917 et renversèrent le vieil ordre social tsariste. Ils provoquèrent une immense avancée, et notamment dans le domaine de l'éducation, après des siècles d'obscurantisme et d'analphabétisme. À la veille de la révolution de 1917, 80% de la population était toujours illettrée. La plupart des écoles existantes étaient tenues par des popes de l'Église orthodoxe. En mettant fin au régime qui maintenait le peuple dans une misère noire, la révolution bolchévique mit fin également à l'analphabétisme et à un état d'ignorance et de superstition inimaginable. Dès 1918, un commissariat à l'instruction publique fut mis en place et un décret promulguait l'alphabétisation de toute la population entre 8 et 50 ans. Malgré les bouleversements de la Révolution, puis les difficultés de la guerre civile, et en l'absence de moyens importants, l'enthousiasme révolutionnaire souleva des montagnes. Le combat contre l'illettrisme fut mené dans tous les coins de la Nouvelle-Urse, du Turkestan jusqu'en Sibérie. Un roman d'Aitmatov raconte l'arrivée du premier maître, c'est son titre, dans un village de Kirghizie. Sachant lui-même tout juste lire et écrire, il dut faire face à la méfiance des paysans qui hésitaient à lui confier leurs enfants. Établir l'école, convaincre enfants et parents, ce ne fut pas une mince affaire. Mais il s'y attela avec fougue et ferveur. Ce fut grâce à des milliers de ses premiers maîtres qu'en quelques années, l'analphabétisme recula radicalement. Même les peuples dont la langue ne connaissait pas l'écriture purent l'écrire pour la première fois en alphabet cyrillique. Des dizaines de milliers de centres de lutte contre l'analphabétisme furent créés, autant de bibliothèques. Pour alimenter la soif de savoir, surgirent des écoles nouvelles, des cours d'adultes, des facultés ouvrières. En 1920, il y avait un demi-million d'enseignants à travers tout le pays. Mais chacun était concerné. Un décret exigeait de tout homme cultivé qu'il considère comme son devoir d'instruire plusieurs illettrés. John Reed, un militant communiste américain qui vécut les débuts de la Révolution, écrivait : « Toute la Russie apprenait à lire et lisait de la politique, de l'économie et de l'histoire, car le peuple voulait savoir et connaître. L'aspiration à l'éducation pendant si longtemps contenue éclata avec la Révolution. À propos du rôle du commissariat à l'instruction publique, Lénine disait, je le cite, « d'en bas, c'est-à-dire de la masse des travailleurs que le capitalisme écartait de l'instruction, à la fois ouvertement par la violence et par l'hypocrisie et la duperie, monte un puissant élan vers le savoir et les connaissances. Nous sommes fiers, à juste titre, de le seconder et d'être à son service. » Et il recommandait. Pourquoi n'apprendrions-nous pas à donner au peuple en un an, malgré notre indigence actuelle, à raison de 2 exemplaires pour les 50 000 bibliothèques et salles de lecture, tous les manuels nécessaires et tous les classiques de la littérature, de la science et de la technique moderne. Car il s'agissait de créer une nouvelle école, l'école unique du travail, que Boukharine et Preobrajensky décrivaient ainsi dans l'ABC du communisme en 1923. L'école unique, cela signifie d'abord que la séparation des sexes doit être supprimée. Il faut écarter ensuite cette division des écoles en écoles supérieures, secondaires et primaires, dont les programmes ne sont point adaptés les uns aux autres. Il faut cesser également la distinction entre l'enseignement général et l'enseignement professionnel, la division en écoles accessibles à tous et en écoles réservées aux classes privilégiées. L'école unique du travail doit constituer une échelle unique que tout élève de la République socialiste peut et doit gravir en commençant par l'échelon le plus bas, le jardin d'enfants, et en terminant par le plus haut, l'université. L'enseignement général et la culture polytechnique seront obligatoires pour tous. Mais il fallut aussi trouver des solutions aux problèmes immédiats des orphelins. De nombreux enfants et jeunes avaient perdu leurs parents dans la guerre mondiale, la révolution ou la guerre civile, et ils se retrouvaient livrés à eux-mêmes, voire tombés dans la délinquance. Makarenko s'occupa dans les années 20 d'une colonie de jeunes délinquants. Il chercha à les transformer en leur faisant mener une vie basée sur le travail et l'intérêt collectif, une vie d'où la loi de la jungle qu'ils avaient connue jusque-là était bannie et qui valorisait au contraire la vie collective et la responsabilité. Jusqu'en 1925, il y eut une effervescence et un génie inventif dans le domaine de l'éducation et de l'enfance qui impressionnèrent jusqu'en Amérique le pédagogue et philosophe John Dewey, celui-là même que Trotsky choisit des années plus tard pour présider la commission chargée de démonter l'argumentaire des procès staliniens. Dewey vint en Russie en 1928 et en revint, enthousiasmé par les écoliers comme par les maîtres. Mais instruire, ce n'était pas que cela. Il fallait aussi modifier les comportements sociaux. Les bolcheviks avaient pris le pouvoir dans un pays barbare où la crasse des idées, la brutalité des comportements, l'esprit bureaucratique et la corruption imprégnaient toute la société tsariste du haut jusqu'en bas. Il fallait donc aussi que l'éducation soit un moyen de socialiser, de transformer les comportements. Dans une petite brochure qui devint vite très populaire et qui s'appelait « Les questions du mode de vie », Trotsky abordait différents aspects de la vie quotidienne. Des petites choses en regard des grandes qu'accomplissait la Révolution ? Non, parce qu'il considérait que l'héritage du passé, ce n'était pas seulement l'arriération économique, mais aussi l'arriération des mœurs, qui empoisonnait toute la vie sociale, de la famille jusqu'au sommet de l'État. Pour changer cet état de choses, il appelait à combattre avec énergie l'alcoolisme, les préjugés religieux, les superstitions de toutes sortes, comme la grossièreté du langage qui reflétait celle des rapports humains. Il fallait aussi rendre la culture accessible à tous, les œuvres d'art, les musées, considérées comme la propriété du peuple entier, furent protégées. Les salles de concert, de ballet ou d'opéra furent ouvertes à tous, et elles se remplirent de soldats en vareuses, d'ouvriers en habits de travail, d'enfants de tous les âges. Loin de détruire la culture, il fallait au contraire s'approprier ce que les classes riches avaient produit de mieux et les mettre au service de tous. Il fallait assimiler les richesses accumulées par la connaissance de la société humaine. S'adressant aux jeunes communistes en 1920, Lénine expliquait « Notre école doit donner à la jeunesse les bases de la connaissance, lui apprendre à élaborer elle-même les conceptions communistes. Elle doit en faire des hommes cultivés. Pendant 10 ans, et malgré toutes les difficultés dues à la misère et à la pénurie, il y eut des tentatives nouvelles dans toutes les directions et de nombreuses expérimentations, tout cela avec les moyens du bord. La bureaucratisation stalinienne allait y mettre fin. Mais en un demi-siècle, la Russie passa d'une arriération quasi moyenâgeuse à la modernité, donnant une éducation générale et technique à des millions de soviétiques, ainsi qu'à des générations d'étudiants de pays pauvres formés en URSS. Et malgré le stalinisme qui a tout figé, le système d'éducation soviétique a sauvegardé une certaine universalité, une volonté de démocratiser l'enseignement et la culture en les rendant accessibles au plus grand nombre plutôt qu'en privilégiant une minorité. C'est en fournissant l'éducation la plus vaste à de larges masses que l'URSS put occuper une place de premier plan dans la conquête de l'espace comme dans la science en général. Le seul fait que la révolution d'octobre ait enseigné au peuple russe, aux dizaines de peuples de la Russie tsariste à lire et à écrire, se place incomparablement plus haut que toute la culture russe en sert d'autrefois, écrivait Trotsky en 1932. Oui, quand on mesure l'ampleur de ce que le régime issu de la révolution a fait en matière d'éducation, sans même parler de ce qu'il a tenté de faire, on peut être fier d'être communiste. Alors pour conclure, le système éducatif en France doit son essor historique au développement de la bourgeoisie. Dans le cadre du capitalisme, il ne pouvait qu'être limité, profondément inégalitaire, et il est resté jusqu'à aujourd'hui. La meilleure éducation, la culture universelle, cela reste réservé aux enfants de la bourgeoisie. Mais pour les enfants des classes populaires, l'école, c'est quand même ce que la société offre de mieux, avant l'exploitation capitaliste ou le chômage. L'éducation nationale, comme d'autres services publics, fait aujourd'hui partie des conditions d'existence de la population. Relativement gratuite, elle permet de pallier au moins un peu l'insuffisance des revenus des travailleurs. C'est pour cela que le désengagement de l'État, qui s'aggrave d'année en année, tout gouvernement confondu depuis 30 ans, a des conséquences sociales catastrophiques, particulièrement dans les quartiers populaires. Et ce n'est pas l'annonce récente de recruter des médiateurs dans ces quartiers pour lutter contre l'absentéisme scolaire qui pourra y changer quoi que ce soit. C'est pourquoi les lycéens, les enseignants, les parents, tous ceux qui se mobilisent en ce moment pour limiter la dégradation actuelle ont bien raison. Et ils ont tout notre soutien. Mais leur combat ne peut vraiment déboucher que s'il s'inscrit dans un combat plus général contre le capitalisme. Car la crise de l'éducation est liée à la crise du capitalisme. La bourgeoisie n'a plus rien à faire de la production elle-même. Pourquoi donc investirait-elle dans l'éducation, c'est-à-dire dans la formation des producteurs ? On l'a vu, l'investissement de la bourgeoisie dans l'éducation, c'était d'abord un investissement sur le long terme, parce qu'il y avait une nécessité d'élever le niveau général d'instruction de la population laborieuse, pour permettre un accroissement ultérieur de la production. Mais aujourd'hui, les capitalistes ne voient même plus l'intérêt d'investir dans le long terme, encore moins dans une instruction. La crise de l'éducation, c'est finalement l'un des aspects qui révèle le pourrissement du capitalisme et par lequel son caractère sénile, usurier, se manifeste. Une société débarrassée de toute forme d'exploitation et d'oppression. Une société véritablement communiste ferait de l'éducation une priorité, comme elle fournirait à tous la nourriture et le logement. Et cette éducation aurait lieu tout au long de la vie. Elle ne serait plus confinée dans des institutions spécialisées, coupées de la société, mais elle favoriserait le développement des talents, des qualités de chacun à tout moment de sa vie, et pas seulement dans les 18 premières années. Marx, en son temps, écrivait que l'éducation n'est pour l'immense majorité qu'un dressage qui en fait des machines. Et il ajoutait qu'au contraire, elle devrait produire des hommes complets, exerçant aussi bien des activités manuelles qu'intellectuelles et capables de s'assimiler la plupart des techniques de production. Marx soulignait que la bourgeoisie, à ses débuts révolutionnaires, avait elle-même posé, plus ou moins consciemment, un programme d'éducation polytechnique. Il soulignait une des contradictions du capitalisme dans le Capital. Je le cite. Si la nature même de la grande industrie nécessite le changement dans le travail, la fluidité des fonctions, la mobilité universelle du travailleur, elle reproduit sous sa forme capitaliste l'ancienne division du travail avec ses particularités ossifiées. La spécialisation à outrance, la coupure entre travail manuel et travail intellectuel sont bien liées au fonctionnement même de la société capitaliste et disparaîtront avec elle. Bien sûr, il faudra des spécialisations pour certaines tâches. On ne s'improvise pas médecin ou ingénieur dans l'électronique, ni même musicien virtuose. Mais chacun pourra acquérir des connaissances élevées dans les domaines qu'il choisira. C'est irréaliste, aujourd'hui certainement, car en consacrant plus ou moins 40 heures par semaine à travailler pour gagner un salaire, il n'y a plus guère de temps pour se consacrer à autre chose. Mais dans une société qui ne sera plus basée sur l'exploitation et le profit, où le travail nécessaire à la satisfaction des besoins de tous sera réparti également entre tous les membres, on trouvera largement le temps de se cultiver, d'approfondir ses connaissances techniques, d'accéder à la culture littéraire ou scientifique ou artistique, d'apprendre de nouvelles langues selon ses goûts. François Jacob, le biologiste prix Nobel, explique que l'homme est programmé pour apprendre, comme le cheval est programmé pour courir ou l'oiseau pour voler. Dans son ouvrage « La femme dans le passé, le présent et l'avenir », Bebel, un dirigeant socialiste allemand, imaginait déjà, en 1891, « La société future possédera, en quantités innombrables, des savants et des artistes de tout genre » qui emploieront activement une certaine partie de la journée à un travail physique et qui, le reste du temps, cultiveront les arts et les sciences selon leur goût. Pour atteindre cela, il faudra se débarrasser d'un système économique dépassé et qui fait plus que jamais obstacle à des possibilités inouïes de progrès humain. Oui, il faut renvoyer le capitalisme à la préhistoire de l'humanité, le communisme et l'avenir de la société.
Alors, nous allons pouvoir ouvrir le débat si des camarades ont des questions. Ils peuvent lever la main pour se signaler afin que nous puissions organiser cela et qu'un camarade arrive avec un micro à leur côté pour qu'il puisse se faire entendre. Alors, où ça ? D'accord, il lève plus la main, mais il y avait quelqu'un par là-bas. Un. D'accord, est-ce qu'il y a d'autres? Donc j'ai vu quelqu'un là-bas. C'est lui, c'est le même.
Là-bas.
Là-bas, un deuxième. D'accord. Bien, bah. Peut-être qu'on peut donc commencer par le premier intervenant. Je rappelle que c'est 3 minutes par intervention et si c'est au nom d'une organisation, on est prié peut-être de faire connaître cette organisation.
Ben, bonjour à tous. Je viens pour la première fois parmi vous, par un ami qui m'a invité. Et j'étais à la fête de l'humanité, j'ai rencontré des communistes. et j'ai été extrêmement déçu. Je viens ici, je suis charmé par... Non, c'est pas ça. C'est, en fait, pour moi, c'est beaucoup plus important d'éduquer comme elle l'a fait que de protester contre les, ce que fait un tel ou un tel, puisque si un tel, ce qu'il fait n'est pas bon, le peuple verra bien. Donc il n'y a pas besoin de protester. Mais, moins on proteste et plus ça permet aux gens de voir les conneries de l'autre et de pouvoir voter, pas voter pour lui la prochaine fois. Maintenant, ce qui est intéressant dans ce que j'ai vu, c'est vraiment l'éducation et ce que vous racontez, je trouve que c'est très bien, c'est informer les gens sur le déroulement de l'histoire, pourquoi c'est comme ça, pourquoi ça n'a pas été comme ça, et je trouve ça très très bien de votre part. Seulement, j'ai un point, c'est que j'ai un avantage sur vous dans la salle, c'est que vous connaissez l'histoire de l'Europe, moi je connais l'histoire de l'Europe et l'histoire de l'Afrique. Et ce que vous avez parlé sur le communisme et autres, ça existait déjà il y a bien longtemps en Afrique, sous d'autres noms et sous d'autres formes. Et ce serait bien aussi de connaître l'histoire de l'Afrique et de voir qu'au lieu de parler des sans-papiers ou des gens que l'on vire, c'est de regarder ce que fait la France pour les empêcher de vivre dans leur pays. Et c'est ça, c'est un combat plus important.
Bon, alors quelques points. D'abord sur le fait peut-être que le syndicalisme enseignant avait réalisé certaines choses en faisant... Notamment entrer pour les questions contentieuses et disciplinaires les instituteurs et les institutrices dans les conseils départementaux s'y avait préparé un petit peu à la voie paritaire. Ensuite, le fait qu'il a voulu rester uni en 48, ça a été la fameuse FENE en matière de laïcité, qu'il n'avait pas voulu suivre les scissions qu'il y avait eu jusque-là il avait d'abord suivi les enseignants la CGT avec des scissions CGT-CGTU, mais en 48, ils avaient formé la FEN, les enseignants de gauche, pour éviter qu'il y ait une coupure. Et alors, effectivement, tout de même, ça a été assez peu donné, mais la dernière grande lutte sur la laïcité en 94, ça a été en 94. La manif contre Beyrouth, qu'on pourrait rappeler. Et ensuite, un dernier point, malgré tout, à l'avantage des curés, c'est que finalement, étant donné qu'il y a eu assez peu de développement des handicapés, j'ai vu qu'à diverses reprises, ce secteur-là en France, comme ce secteur de développement, et puis aussi les centres de loisirs pour les colonies de jeunes aveugles, et surtout pour les polyhandicapés, c'est resté dans la manche des curés.
Alors, à propos de l'Afrique, là, je ne sais pas si le premier intervenant se demandait pourquoi je n'avais pas parlé de la situation de l'éducation dans les autres pays que l'Europe, ou si c'était pour rappeler qu'il y avait eu d'autres éducations à d'autres périodes de l'histoire de l'Afrique. Mais c'est vrai que ce soir, on avait fait un choix de parler de l'éducation dans les pays développés, dans les pays industrialisés, dans les pays où les richesses matérielles qui se sont accumulées aussi sur le reste du monde, mais montrent à quel point, même donc dans ces pays riches, une véritable éducation pour l'ensemble de la population n'est pas possible. C'est vrai que ça laisse un peu imaginer la situation dans les pays pauvres, dans les pays sous-développés, où il n'y a même pas les moyens matériels de loger, de nourrir correctement l'ensemble de la population, donc où l'éducation, il n'y a même pas souvent de système d'État qui peut prendre ça en charge, ou lorsqu'il prend ça en charge, c'est de façon vraiment très parcellaire et fragmentaire. Un petit exemple, on parle souvent de Cuba dans l'actualité, mais quand même pour la région des Caraïbes, simplement, la situation de l'éducation à Cuba... elle est très différente de celle qu'il y a à côté à Haïti ou à Saint-Domingue. Ça montre au moins que quand il y a la volonté politique de vouloir changer un petit peu les choses, ça peut contrebalancer un petit peu, en tout cas, la situation. Mais bon, l'extrême pauvreté qui règne quand même à Cuba, l'embargo américain font que ça reste quand même assez limité, mais... c'est important de voir, pour nous en tout cas, c'est pour ça qu'après j'ai discuté longuement de la révolution russe, que même dans un pays arriéré, quand il peut y avoir une mobilisation de l'ensemble de la population et une volonté politique au niveau de l'État, de la direction, il peut y avoir des efforts considérables qui sont faits. Hein, donc là, c'est juste pour justifier le choix qui était fait de ne pas parler de tout, donc effectivement de ne pas parler de l'éducation dans ces pays-là. Mais bon, je ne sais pas si c'est ça hein, que vous vouliez dire. Bon. Alors à propos simplement du syndicalisme et de l'histoire du syndicalisme, là aussi c'était volontairement un choix de ne pas parler de l'histoire du syndicalisme enseignant. Les enseignants, j'en suis une et je suis syndiquée, donc c'est pas le problème de refuser de parler de ça, mais c'est surtout qu'il nous intéresse, en particulier les instituteurs, pendant toute une période, parce que c'est non seulement leur formation et leur origine sociale, mais surtout le milieu qu'ils éduquent qui nous intéresse, le milieu ouvrier, le milieu populaire. Donc la seule partie du syndicalisme que j'ai abordée, et c'était exprès, c'est le moment où ils veulent adhérer à la CGT, où ils veulent entrer dans les bourses du travail, parce que ils ressentent leur sort comme étant lié à celui de la classe ouvrière, et ils ont en plus, pense-t-il à juste titre, un rôle à jouer dans cette émancipation en donnant des cours du soir, en apprenant des choses de la classe ouvrière. Après, le syndicalisme enseignant coupé du reste de la situation des travailleurs, c'est bon, c'est un peu l'histoire du corporatisme enseignant, mais c'est vrai que c'est moins intéressant quand Darcos dit et se plaint qu'aujourd'hui le problème avec les enseignants, c'est qu'au lieu de se comporter comme des intellectuels, ils se comportent comme des cheminots ou des postiers. Ben, moi, je ressens ça comme un compliment. Simplement, donc sur la laïcité, bon, j'ai juste parlé quand même de la manifestation de janvier 1994 hein, contre la volonté de Bayrou, effectivement, de modifier la loi Falloux. Alors à l'époque, la loi Falloux, c'est vrai qu'elle proposait pas simplement de financer à 10% les frais d'investissement. Hein. Elle avait aussi bien d'autres aspects par rapport à l'enseignement secondaire. Ça a permis à l'époque aux religieux de reprendre la main sur l'enseignement secondaire dans les lycées. Bon, dont j'ai pas parlé, mais c'est vrai que le problème de l'éducation privée, et on le voit aujourd'hui quand même, c'est que ça n'a pas été résolu par la séparation de l'Église et de l'État en 1905, ça c'est sûr, mais même qu'on est revenu bien en arrière par rapport à ça et dans une période récente. Bon, Vichy, on peut dire, c'est une parenthèse un peu de l'histoire, mais même après, à la fin des années 50, quand Debré décide de financer l'enseignement privé en disant qu'il partit au service public d'enseignement, on se dit qu'il aurait fallu à ce moment-là, au contraire, développer encore plus le service public. Bon, c'est un choix qu'il a fait de s'appuyer sur les écoles privées existantes. Et le recul en 84 de Savary, enfin de Savary, Savary démissionne, mais le recul de Mitterrand, il est quand même assez... Il nous coûte encore aujourd'hui, d'une certaine manière. Il a fallu simplement que les curés se mobilisent et mobilisent tout leur... Tout l'électorat de droite et réactionnaire pour qu'on recule, j'ai envie de dire, en tout cas définitivement pour une période, sur un enseignement, un service d'enseignement public et laïque auquel, bien sûr, on serait, nous, attachés. Alors maintenant, simplement pour les handicapés, bon, ça c'est sûr que de toute façon, même les mesures toutes récentes qu'ils ont prises pour scolariser dans les écoles les enfants handicapés avec les autres enfants, c'est un peu de la poudre aux yeux, quoi. C'est sûr, parce qu'ils donnent des assistants de vie, des auxiliaires de vie scolaire pour permettre leur intégration. Mais bon, moi, personnellement, dans une classe, j'ai un enfant qui est sourd. C'est évident que pendant les quelques heures, en lycée professionnel, pendant les quelques heures où on lui donne un auxiliaire de vie scolaire, c'est absolument insuffisant pour qu'il puisse suivre la même scolarité qu'un autre enfant. Alors il est à sa place là, c'est pas pour dire qu'il n'est pas à sa place, mais il faudrait un auxiliaire de vie scolaire tout le temps avec lui, et puis surtout il faudrait que son intégration elle se fasse pas simplement dans la classe. Laissez ça au curé, je suis bien d'accord avec vous, c'est encore laisser ça à la charité publique, alors que nous on trouve que c'est la société qui devrait quand même prendre en charge tous les enfants, handicapés ou pas, mais tous les enfants de ce pays.
Alors la prochaine fois, c'est donc un meeting où nous nous retrouverons donc le 6 mars, un meeting sur l'actualité du communisme face à la faillite du capitalisme, avec Nathalie Arthaud et la participation d'Arlette Laguiller. Au 6 mars donc.